Il n'est pas rare qu'aux infos, on apprenne que toute une population soit en train de se faire massacrer. Les nettoyages ethniques sont presque monnaie courante et on regarde ça du confort de son fauteuil comme s'il s'agissait d'un film à grand spectacle. Malheureusement, la suppression de tout un peuple est un scénario bien rodé. Le prophète Jérémie nous dépeint la lente agonie des Israélites assiégés par les Babyloniens. Le prophète a le cœur brisé par les messages de jugement qu'il ne cesse d'annoncer, et parce que la prise de Jérusalem, le massacre ou la déportation de sa population sont sur le point de se réaliser. Il a célébré dans les pleurs et la douleur la 40e année de son ministère prophétique. Nous sommes en 588 ou 587 avant Jésus-Christ, et cela fait une dizaine d'années que Sédécias est roi de Juda. Il est du genre « laisser faire », relativement bienveillant, mais lâche et rebelle aux ordres de Dieu. Les Babyloniens sont déjà venus plusieurs fois à Jérusalem, en 605 pour piller le trésor du temple et imposer un tribut au roi Jéhoiakim, puis en 597 où ils ont fait un siège de la ville en bonne et due forme et déporté l'élite de la nation. Les voilà de retour parce que Sédécias, qui était le vassal de Nabuchodonosor, s'est révolté contre son suzerain qui a vu rouge. Je commence à lire le chapitre 37 en compressant. Sédécias, fils de Josias, fut établi roi sur le pays de Juda par Nabuchodonosor. Ni lui, ni ses ministres, ni la population du pays n'obéissaient aux paroles que l'Éternel disait. Toutefois, le roi Sédécias envoya plusieurs personnes auprès du prophète Jérémie pour lui dire « Veuille intercéder pour nous auprès de l'Éternel, notre Dieu ». Versets 1 à 4. Sédécias n'était pas aussi méchant et incrédule que Jéhoiakim, son neveu, qui régna avant lui pendant 11 ans. Il croyait à l'efficacité de la prière et demande une seconde fois à Jérémie d'intercéder pour Juda. Seulement, il n'obéit jamais aux ordres que Dieu lui donne. Je continue en compressant. L'armée du Pharaon avait quitté l'Égypte. Les Chaldéens, qui assiégeaient Jérusalem, avaient appris la nouvelle et avaient levé le siège. Alors l'Éternel adressa la parole au prophète Jérémie en ces termes. « Tu répondras ainsi au roi de Juda. L'armée du Pharaon, qui s'était mise en marche pour vous secourir, va rentrer chez elle en Égypte, et les Chaldéens reviendront attaquer cette ville. Ils s'en empareront et la brûleront. » Versets 5 à 8. Sédécias avait appelé le Pharaon à son aide, mais ce dernier s'est fait battre à plate couture par Nabuchodonosor, qui n'a donc interrompu le siège que très peu de temps. La ruine de Jérusalem est inéluctable. Je continue plus loin. À l'époque où l'armée des Chaldéens dut lever le siège de Jérusalem à cause de l'armée de Pharaon, Jérémie sortit de Jérusalem pour aller au pays de Benjamin et y toucher sa part au milieu de la population. Versets 11 et 12. Jérémie veut profiter de la levée momentanée du siège pour aller chez lui chercher son salaire de prêtre, car pendant le siège, les dîmes ne pouvaient être envoyées au trésor du temple. Je continue en compressant. Mais quand il fut arrivé à la porte de Benjamin, il fut arrêté par le chef des sentinelles nommé Yiria, qui lui dit « Tu veux passer aux Chaldéens ?» Jérémie lui répondit « C'est faux ». Mais Yiria ne voulut rien entendre. Il se saisit de Jérémie et l'amena aux dirigeants. Ceux-ci le firent battre et incarcérer. Jérémie fut jeté dans un cachot voûté et il y resta longtemps. Versets 13 à 16. Si ce Yiria est le petit-fils du faux prophète Anania que nous avons déjà rencontré, ici il ne fait que nourrir une rancune de famille. D'un autre côté, l'insistance de Jérémie à recommander la capitulation pouvait donner une apparence de vérité à l'accusation portée contre lui. Les hauts fonctionnaires qui soutenaient Jérémie avaient été soit déportés avec le roi Jéhoiakim, soit écartés du pouvoir, et les nouveaux dirigeants étaient des blancs-becs qui étaient hostiles aux prophètes. Je continue. Par la suite, le roi Sédécias l'envoya chercher pour l'interroger secrètement dans son palais. Il lui demanda « As-tu un message de la part de l'Éternel ?»« Il y en a un. » répondit Jérémie. « Tu tomberas entre les mains du roi de Babylone. » Puis Jérémie demanda au roi Sédécias « Quel crime ai-je commis contre toi, contre tes ministres et contre ce peuple ? » pour que vous m'ayez jeté en prison. Que sont devenus vos prophètes qui vous prophétisaient que le roi de Babylone ne reviendrait plus ni contre toi ni contre ce pays ? Versets 17 à 19. Jérémie n'a pas froid aux yeux devant le roi. Apparemment, les faux prophètes ont maintenant disparu. Ou bien ces imposteurs n'osent plus mettre le nez dehors depuis que les événements ont démenti leurs paroles, ou bien ils se sont lâchement dérobés en passant aux Chaldéens. Je finis le chapitre. « Maintenant, mon Seigneur le roi, écoute-moi, je te prie, et veuille accéder à ma supplication. Ne me renvoie pas dans la maison du secrétaire Jonathan pour que je n'y trouve pas la mort. » Alors le roi Sédécias ordonna de transférer Jérémie dans la cour du corps de garde et de lui fournir chaque jour une miche de pain de la rue des boulangers jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pain dans la ville. Ainsi Jérémie demeura dans la cour du corps de garde. Versets 20 et 21. Sédécias inspire la pitié. Il fait autant de bien que sa lâcheté lui permet et tout le mal que sa faiblesse lui dicte. Il n'était pas foncièrement mauvais, mais à cause de sa désobéissance à l'Éternel, il payera le prix fort. Nous arrivons maintenant aux événements du chapitre 38. C'est là que nous sont décrits les derniers jours du siège de Jérusalem et la situation de Jérémie ne fait qu'empirer parce qu'il continue à dire « Voici ce que déclare l'Éternel ». Celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste, mais celui qui en sortira pour se rendre aux Chaldéens aura la vie sauve. Il aura au moins gagné cela. Verset 2. Jérémie a tenu ses propos depuis le commencement du siège, et comme il est dans la prison du corps de garde, il peut facilement communiquer avec le peuple. Je continue plus loin. Alors les dirigeants dirent au roi, « Il faut faire mourir cet homme, car ce qu'il dit démoralise les soldats qui restent encore dans cette ville, ainsi que toute la population. Cet homme-là ne cherche pas le bien du peuple, il ne veut que son malheur. » Le roi Sédécias leur répondit, « Il est entre vos mains, car le roi ne peut rien vous refuser. » Verset 4. Il est exact que le discours de Jérémie devait décourager les défenseurs de la ville. Mais par fidélité à l'Éternel, le prophète montre un courage héroïque car il s'expose à être accusé de trahison. L'attitude lâche de Sédécias rappelle celle de Ponce Pilate quand il s'est lavé les mains. Je continue en compressant. Ils prirent donc Jérémie et le descendirent avec des cordes dans la citerne qui se trouvait dans la cour du corps de garde. Il n'y avait dans le fond que de la vase et Jérémie s'y enfonçant. Mais Ebed-Mélec, un Éthiopien, un fonctionnaire attaché au palais royal, sortit du palais et alla parler au roi. Il lui dit « Monseigneur le roi, ces hommes ont mal agi envers le prophète Jérémie en le descendant dans la citerne. Il y mourra de faim. » Le roi ordonna « Prends avec toi trois hommes et fais remonter le prophète Jérémie de la citerne avant qu'il meure. » Ebed-Mélec prit des linges déchirés ou usés. Puis il les descendit avec des cordes à Jérémie dans la citerne. Puis ils le hissèrent hors de la citerne avec les cordes. Après cela, Jérémie resta dans la cour du corps de garde. Versets 6 à 13. Ebed-Mélec, l'eunuque éthiopien, était probablement le responsable du harem royal. Il est plus humain que les chefs de Juda. On sent dans ce récit détaillé l'émotion reconnaissante du narrateur. Je continue. Le roi Sédécias envoya chercher le prophète Jérémie et le fit conduire à la troisième entrée du temple de l'Éternel. Il lui dit « Je vais te poser une question, ne me cache rien. » C'est la troisième fois que le roi consulte Jérémie en secret. Il espère qu'il lui annoncera un message de réconfort. Je continue plus loin. Alors Jérémie dit à Sédécias, « Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu des armées célestes, Dieu d'Israël. Si tu te rends immédiatement aux officiers du roi de Babylone, tu auras la vie sauve, toi et ta famille, et cette ville ne sera pas incendiée. » Verset 17. Il est étonnant que jusqu'au dernier moment, Dieu offre une chance de salut à Sédécias. C'est comme s'il guettait la moindre repentance chez le pécheur afin de différer ou même révoquer ses jugements. Je continue plus loin. Mais le roi Sédécias répondit à Jérémie, « J'ai peur des Juifs qui sont déjà passés aux Chaldéens. Je crains de leur être livrés et d'être outragés par eux. » « On ne te livrera pas à eux, lui répondit Jérémie. Écoute donc l'Éternel ce que je t'ai dit. Tu t'en trouveras bien et tu auras la vie sauve. » Versets 19 et 20. Le roi a peur d'être la risée de ceux qui sont déjà passés à l'ennemi. Mais Jérémie l'invite à se confier en l'Éternel et à croire en sa parole. Je continue plus loin. « Mais si tu refuses de te rendre, voici ce que l'Éternel m'a révélé. Toutes les femmes qui restent dans le palais royal de Juda vont être emmenées aux officiers du roi de Babylone et elles diront « Ils t'ont tendu un piège, tes bons amis, te voilà pris. Et pendant que tes pieds enfoncent dans la boue, eux se sont éclipsés. Toutes tes femmes et tes enfants vont être emmenés d'ici aux Chaldéens et tu ne leur échapperas pas, car le roi de Babylone se saisira de toi et cette ville sera incendiée. » Versets 22 et 23. Selon les règles de la guerre antique, les femmes du harem d'un roi vaincu devenaient propriété du vainqueur. Elles ridiculiseront Sédécias dans un chant satirique disant « Ils t'ont tendu un piège, tes bons amis, te voilà pris, et pendant que tes pieds enfoncent dans la boue, eux se sont éclipsés. » Ces bons amis du roi sont les faux prophètes dont la rengaine était « paix et prospérité ». Je finis ce chapitre. Alors Sédécias dit à Jérémie que personne ne sache rien de toute cette conversation et tu ne seras pas mis à mort. Ainsi Jérémie demeura dans la cour du corps de garde jusqu'au jour où Jérusalem fut conquise. Voici comment Jérusalem fut prise, versets 24 et 28. Sédécias ne prend aucun engagement, c'est un lâche qui a peur de ses conseillers. Son indécision amènera sa ruine. Il agit comme un politicien qui essaye de plaire à tout le monde et qui ne satisfait personne. Nous arrivons maintenant à l'événement le plus sombre de l'histoire du royaume de Juda, la prise de Jérusalem. Le siège dura environ un an et demi. Je commence à lire dans le chapitre 39 en compressant. Tout l'état-major du roi de Babylone entra dans la ville et s'installa à la porte centrale. C'était Nergal, Saretser, Samgar-Nebou, Sarsekim, le chef des officiers de la cour, Nerbal-Saretser, le général en chef, et tous les autres officiers supérieurs du roi de Babylone. Lorsque Sédécias, roi de Juda, et tous les soldats virent cela, ils s'enfuirent et s'échappèrent de la ville de nuit par le chemin du jardin du roi, par la porte entre les deux remparts, et sortirent sur le chemin de la vallée du Jourdain. Mais l'armée des Chaldéens se lança à leur poursuite et rattrapa Sédécias dans la plaine de Jéricho. Ils le firent prisonnier et l'amenèrent à Nabuchodonosor, roi de Babylone, à Ribla dans le pays de Hamat. Celui-ci prononça son jugement contre lui. Versets 3 et 4. Si l'état-major de l'armée babylonienne s'est installé à la porte centrale, c'est qu'elle occupe tout Jérusalem puisque cette porte se trouvait entre la ville basse au nord et la ville haute. Les chefs, le roi en tête, s'enfuient comme des lapins par une porte située au sud menant au jardin du roi. Ils sont rattrapés et emmenés en Syrie dans la ville de Ribla située sur le fleuve Oronte. Je continue. Le roi de Babylone fit égorger à Ribla les fils de Sédécias sous les yeux de leur père. Il fit aussi égorger tous les notables de Juda. Puis il fit crever les yeux à Sédécias et le fit lier avec une double chaîne de bronze pour le déporter à Babylone. Versets 5 et 6. On ôtait couramment la vue aux prisonniers en plaçant devant leurs yeux un plateau métallique chauffé à blanc qui les aveuglait presque complètement. Pendant ce temps, à Jérusalem, les habitants sont emmenés enchaînés à Rama, à 8 km au nord de la ville, en attendant d'être déportés à Babylone. Les petites gens, par contre, ne sont pas exilés et reçoivent au contraire des vignes et des champs à cultiver. Je continue plus loin en compressant. Nabuchodonosor confia Jérémie à Nebuzaradan, chef de la garde royale, en lui ordonnant « Prends-le en charge, veille sur lui, ne lui fais aucun mal, mais au contraire, agis à son égard comme il te le dira. » Alors les chefs militaires firent prendre Jérémie dans la cour du corps de garde. Ils le confièrent à Guédalia qui le laissa rentrer chez lui. Jérémie demeura donc au milieu du peuple. Versets 11 à 14. Tout semble bien finir pour Jérémie. Pourtant, au chapitre suivant, on apprend qu'il se retrouve lui aussi enchaîné au milieu des captifs. Que s'est-il passé? Une fois sorti de prison, il est retourné dans sa ville natale où des soldats ne le connaissant pas l'ont fait prisonnier. Mais le chef de la garde royale, l'ayant repéré, l'a fait remettre en liberté. Je finis le chapitre 39. L'Éternel adressa la parole à Jérémie pendant qu'il était encore enfermé dans la cour du corps de garde. « Va trouver Ebed-Mélec, l'Éthiopien, dis-lui. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël. Je vais accomplir ce que j'ai annoncé pour cette ville, des malheurs et non des choses heureuses, et cela se produira sous les yeux lorsque cela arrivera. Mais ce jour-là, je t'épargnerai, l'Éternel le déclare, et tu ne seras pas livré aux hommes que tu redoutes. Oui, je te ferai échapper, et tu ne mourras pas par l'épée. Tu auras la vie sauve, parce que tu as mis ta confiance en moi, l'Éternel le déclare. » Versets 15 à 18. Cet oracle se situe chronologiquement avant la prise de Jérusalem. On a coutume de dire « un bienfait n'est jamais perdu ». Cet adage s'est vérifié pour ce bon Éthiopien qui a sauvé la vie du prophète Jérémie. Dieu a fait en sorte que le châtiment épargne ce brave homme. Avec la prise de Jérusalem commence ce que Jésus a appelé le temps des nations. Je lis le passage de l'Évangile. Les Israélites tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Aujourd'hui, Jérusalem n'est toujours pas sous le contrôle complet de la nation juive. En effet, les Israéliens doivent constamment marcher sur des œufs à cause des revendications des populations arabes. De plus, la mosquée, la coupole du rocher, occupe toujours l'emplacement réservé au temple de l'Éternel. Jérémie a proclamé aux habitants du royaume de Juda les avertissements et les menaces de l'Éternel pendant 40 ans. Il appelait le peuple à la repentance, annonçait la destruction de Jérusalem et l'exil de la population au cas où il persisterait dans sa rébellion. Dieu a été très patient pendant longtemps, mais cette patience a permis aux Israélites de se faire de douces illusions, et elle a encouragé les faux prophètes à dire « Voyez les paroles de Jérémie, ce sont des bobards !» Mais maintenant que ces prophéties se sont réalisées, c'est trop tard. Dieu est patient avec le monde entier et laisse faire jusqu'au moment où la coupe de sa colère est pleine. Alors il la déverse et son jugement tombe. L'Éternel a supplié les Israélites de revenir à lui, mais ils l'ont méprisé. Finalement, c'est Nabuchodonosor qui est venu leur parler, mais ses paroles n'étaient pas tendres. Il est difficile à nos contemporains de concevoir un Dieu qui se mette en colère et qui puisse juger une nation, une famille ou un individu. Certains pensent, bien à tort, que le Dieu de l'Ancien Testament est différent de celui du Nouveau. En effet, c'est bien Jésus qui a dit aux religieux de son temps « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, serpents, race de vipères, comment pouvez-vous penser que vous éviterez le châtiment de l'enfer ?» Que ce soit sous le régime de l'Ancien ou du Nouveau Testament, Dieu est amour, mais il juge le péché. Si vous lisez le livre de l'Apocalypse, il y est question de châtiments terribles dont la sévérité ne se trouve nulle part ailleurs dans les textes sacrés. Tout homme peut accéder au trône de Dieu au nom de Jésus-Christ, mais sans la présence du Sauveur, ce trône est un lieu de jugement, d'où un jour Dieu déversera toute sa colère sur ce monde. Les lois divines sont implacables et toute désobéissance entraîne un châtiment. L'homme a du mal à le comprendre et surtout à l'accepter dans les domaines moral et spirituel, alors que c'est tellement évident dans l'ordre naturel des choses. Si vous sautez de votre balcon ou de votre toit, vous savez très bien que selon la hauteur, vous serez blessé ou même tué. L'exploration de l'espace est une grande réussite du génie humain, mais elle ne fut possible qu'en obéissant aux principes qui gouvernent l'univers. Pour envoyer un homme sur la Lune et le faire revenir sur Terre, il a fallu que les scientifiques suivent scrupuleusement les lois de l'astrophysique. L'histoire humaine devrait aussi éclairer notre lanterne sur la réalité des châtiments divins. Si vous marchez le long du corridor du temps, vous constatez qu'il est jonché des décombres des grandes civilisations que le monde a connues. Ces ruines prouvent bien qu'elles ont été jugées. Dieu les a tolérées jusqu'à ce qu'elles atteignent un certain niveau de corruption morale et religieuse. Quand la coupe de sa colère fut pleine, il s'est fâché et ses grandes puissances sont tombées et ont disparu. Ces réflexions font peut-être vieux jeu et même penser à un certain obscurantisme, mais c'était déjà l'opinion des derniers rois de Juda et de leurs conseillers corrompus. Ils croyaient que Jérémie ne faisait plus partie de son temps, qu'il était dépassé, le pauvre. Mais au bout du compte, qui a eu raison ?